Programmes, infos, podcasts, animateurs, retrouvez-nous dès maintenant sur radiotonique.ch.
Hello tout le monde, c'est Mel, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Radio Tonique et aujourd'hui avec Paris, on accueille notre invité, Yacine Enfaoui. Comment vas-tu Yacine?
Ça va très très bien, je me remets de mes émotions d'hier avec le match du Maroc et de l'équipe de France, enfin deux matchs intenses, et sinon tout va bien, tout va très très bien depuis le Qatar.
Ouais, t'as eu double émotion en fait hier.
Double émotion pour un cœur, c'est beaucoup et on a essayé de résister, de tenir bon, mais c'est vrai que non, c'était une. Voilà, le principal, c'est que la journée se termine bien avec la qualification du Maroc et la qualification de l'équipe de France. Donc c'était beau et c'était un bon moment à vivre, ouais.
Tu m'étonnes. Alors écoute, on va parler après de justement de cette demi-finale qui va arriver, de ces matchs qu'il y a eu. D'abord, je voudrais te poser une petite question. Niveau des personnalités que tu as pu interviewer, c'est laquelle qui t'a vraiment le plus impressionné?
Au Qatar ou ailleurs?
Dans ta carrière de journaliste?
Ah, dans ma carrière de journaliste, celle qui m'a le plus impressionné, ce sera pas nouveau, c'est Zinedine Zidane, forcément, pour ses 50 ans. L'an dernier, avec TF1, on lui fait une surprise, donc en lui organisant une interview à l'occasion de ses 50 ans au mois de juin. Et je fais cette interview, et à la fin, on lui offre un gâteau d'anniversaire avec Soprano. Bref, c'est un moment intense parce qu'on préparait ce sujet depuis des mois et avec des messages, des messages de ses proches, de ses amis, de ses anciens coéquipiers. Et puis voilà, organiser ça à une idole comme Zinedine Zidane, c'est juste fou. Le voir en face de soi, à deux doigts de verser une larme, c'est juste exceptionnel. Et partager en fait ces minutes avec lui. Et ses échanges, ses regards, ses sourires, ça restera la plus belle interview, je pense, que j'ai faite jusqu'à présent.
Je comprends. Ça doit être super impressionnant de le voir devant toi. Et franchement, c'est. Puis, comme on dit, hein, Zinedine, c'est Zinedine, quoi.
C'est
C'est du
ça. Et en fait,
high-level.
il met très vite fin à cette barrière entre le journaliste et lui ou autre. Hein. Dès qu'il est en confiance, dès qu'il se sent bien avec la personne. Il est très simple en fait et enfin j'ai rarement vu ça une personne comme lui je m'y attendais pas à me poser des questions même sur ma vie privée avant l'interview ou autre enfin montrer de l'intérêt alors qu'il n'est pas obligé et il est là qu'uniquement pour une interview, j'ai trouvé ça beau et fort.
Mais tu m'étonnes. Et du coup, après, est-ce que j'ose te poser la question, quel est le footballeur qui était un peu le moins agréable que tu as eu en interview? Si tu as le droit de le dire, bien évidemment.
Bah, honnêtement, c'est pas question que j'ai le droit ou pas le droit, c'est que bah, j'en ai pas rencontré. Enfin, avec moi en tout cas, ça s'est toujours très très bien passé avec tous les joueurs que j'ai pu rencontrer, que ce soit des étrangers ou des Français ou autres. Qu'il y ait victoire ou défaite, il y a toujours eu du respect envers moi et en interview. Donc, il n'y a pas un joueur. Il a pu arriver que certains joueurs soient. Qu'on ait pu me dire fais gaffe avec ce joueur, il est compliqué en interview, tu auras du mal à en tirer quelque chose ou autre. Bah, finalement, c'est toujours très bien passé et j'ai réussi à mettre les joueurs en confiance et à tout simplement en fait être moi-même et ils ont été eux-mêmes et ça s'est très bien passé. Donc non, et je suis content qu'il n'y en ait aucun d'ailleurs.
Bon, heureusement, c'est toujours mieux quand ça se passe bien.
C'est ça.
Tu as commencé à quel âge le journalisme?
J'ai commencé, j'avais 20 ans.
20 ans, d'accord,
20
ok.
ans, j'en ai.
D'accord. Et puis, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui ont envie de se lancer justement dans ce métier?
Bah, un conseil, c'est qu'il ne faut pas. Faut pas voir uniquement les choses qui brillent dans ce métier. Il ne faut pas uniquement voir la télévision, voir les interviews avec les stars, voir la chance qu'on a de faire du voyage et des reportages à la Coupe du Monde et autres. Bien sûr, c'est des rêves et ça doit être des objectifs, mais faut pas s'imaginer le journalisme uniquement à travers ça. du moins le journalisme post-sportif dans lequel je suis. Mais au contraire, il faut se dire que pour en arriver là, il faut passer par plusieurs étapes, il faut faire beaucoup de sacrifices, il faut beaucoup travailler, faut manger son pain, voilà, faut patienter, faut travailler jusqu'à pas d'heure. Mais j'estime qu'il y a une place pour tout le monde et c'est un métier qui est ultra, qui évolue très vite. Donc, faut être motivé, faut être source, faut avoir de l'inspiration, des idées. Et voilà, une fois qu'on a ça, qu'on a ce cocktail et qu'on a vraiment une base de travail assez solide, n'y a pas de raison de ne pas réussir.
D'accord, bah c'est bien. Merci pour ton conseil, pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de faire ce métier. D'ailleurs, Paris, qui est avec nous, c'est voilà, il a envie de se lancer là-dedans aussi.
Ouais, je suis en train. Je suis en train.
C'est bien, il faut se lancer, il faut y croire. Il ne faut pas se dire, bon, c'est compliqué, je ne vois pas, je ne sais pas qui contacter, je ne sais pas quoi faire. Moi, la route n'était pas tracée, on ne m'a jamais dit, tu es fait pour être journaliste, tu as la voie devant toi, fonce. Au contraire, c'était plutôt l'inverse. C'était plutôt, évite de faire une école, ça va coûter trop cher, évite d'aller à Paris, c'est pas fait pour toi.
On me dit la même
Le
chose.
journalisme, il y a... Voilà, le journalisme, il y a beaucoup de demandes et très peu de places, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, cette place qui est disponible, je veux la prendre. Et je ne veux pas la prendre en ayant triché ou en ayant volé la place à quelqu'un d'autre, mais en me battant et en montrant que je mérite d'avoir cette place. Voilà. C'est comme partout dans la vie, il faut se battre et faut aimer ce qu'on fait. Se battre juste pour se battre et vouloir prouver aux autres, ce n'est pas ça le but, c'est vraiment de. C'est parce qu'on aime ce qu'on fait et qu'on veut aller au bout.
Je prends le conseil, je prends les conseils directement.
Pas de soucis, prends.
Et du coup, Paris, toi, tu as une question pour Yacine?
Ouais, moi j'ai une question concernant du coup les Coupes du Monde, parce que tu as fait la Coupe du Monde en Russie en 2018. Et je voulais savoir si tu vois une différence globale justement entre une Coupe du Monde en été et puis bah, une Coupe du Monde en hiver, que ce soit au niveau de l'ambiance, au niveau des supporters, etc.
Alors, c'est en début de Coupe du Monde, on avait un peu cette inquiétude de se dire si les gens allaient venir parce qu'on est au mois de novembre. Les gens travaillent. Ceux qui ont la chance de venir au Qatar, potentiellement, ce sont des personnes qui ont mis de l'argent de côté et qui ont pris cette période, qui ont vraiment réservé cette période pour la Coupe du Monde. Alors que l'été, le mois de juillet, ouais, mois de juin, juillet, en général, les gens posent leurs vacances et peuvent voyager. Là, c'était assez différent, mais les semaines, ça fait déjà 3 semaines que je suis là. C'est vrai que, enfin, ici, on s'en rend plus compte parce que déjà, on est dans un pays chaud, donc on a l'impression que c'est l'été. Il fait 30 degrés, donc vraiment, on est dans une bulle. Ça m'arrive de recevoir des vidéos de France où on me dit, nous, il y a la neige qui toque à notre porte, et vous pensez aller à la plage et vous êtes en t-shirt la journée. Donc, c'est vrai que c'est assez trompeur, en fait. C'est assez trompeur. Mais en tout cas, ça se passe très bien. Pour une Coupe du Monde en hiver, pour une première, ça se passe super bien et sur le plan sportif et sur le plan aussi d'accueil des supporters et autres. Tous les supporters que j'ai pu rencontrer me disent la même chose, c'est que niveau organisation, c'est top. Il n'y a pas de mouvement de foule, il n'y a pas de complexité en fait. La complexité, la vraie complexité, ce sont les prix en fait. Mais autrement, sur le reste, c'est assez facile d'accès. Une Coupe du Monde l'été, ça reste particulier parce que on voit aussi dans le monde entier, les gens se réunissent et il y a plus de fan zone, il y a plus de mouvements, de célébrations. Là, je ne sais pas, en France, j'ai vu quelques vidéos sur les Champs-Élysées, j'ai vu que ça avait célébré les victoires du Maroc et de l'équipe de France. Euh,
Ouais.
je ne sais pas, je sais pas comment vous vivez cette Coupe du Monde l'hiver là-bas, s'il y a cet engouement ou pas.
Alors honnêtement, enfin, nous en Suisse à Genève, c'est vrai que hier c'était le feu, quoi. Il y a supporters marocains, supporters français, vu que nous on est à côté de la frontière française. Donc c'est vrai que c'était la folie totale, quoi. La folie, c'était génial, quoi. C'était de voir ça. Et c'est vrai, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de dérapage. C'est vraiment les klaxons, voilà, les gens qui chantent, qui sont contents, qui sont dans la rue. Voilà, c'est vraiment c'est super. Après, c'est vrai que niveau des fan zones, bah, voilà, c'était, comme on le sait, il y a pas seulement des fan zones, c'est plutôt dans
Non.
les, on va dire, dans les bars, dans les restaurants. Voilà, ils font des
C'est la même
retransmissions.
à Londres. C'est la même à Londres. C'est parce que du coup, moi, je suis outre-Manche. On va dire que c'est exactement la même. On a des les pubs sont remplis. Là, hier soir, les pubs étaient remplis. Mais par contre, on n'a pas eu beaucoup de bruit hier soir. On se demande pourquoi.
pense
Voilà.
que, je pense que les Anglais ont perdu. Enfin, c'est l'information que j'ai reçue.
Ah oui, je crois aussi. Je crois aussi.
Ouais.
Et d'ailleurs, justement, en parlant de ça, il va y avoir cette demi-finale Maroc-France. Franchement, toi qui as le cœur français et le cœur marocain, comment tu vois cette demi-finale, honnêtement?
Ben moi, je suis en finale de toute façon, donc
Ah bah
quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, la réponse, elle est toute trouvée. Hein. Je suis en finale de la Coupe du Monde. Donc voilà, j'ai cette chance d'être né en France et d'être d'origine marocaine et j'en suis fier. Parce que quand je bosse, on me l'a beaucoup rappelé ici en fait, parce que je suis à la fois avec les supporters français pour les interviews, à la fois avec les supporters marocains. Et mon cœur, il est avec les deux peuples. Donc c'est impossible de choisir, et je ne choisirai jamais parce que je mettrai jamais l'un après l'autre ou l'un avant l'autre. J'ai grandi en France, je suis né en France, je suis né en Normandie, j'en suis fier. J'ai tout connu avec la France, et elle m'a donné ma chance de réussir aussi et d'y vivre. Donc cette fierté, il faut l'assumer. C'est une double fierté. Le Maroc, c'est le pays de mes parents. J'y vais tous les étés depuis que je suis gamin. J'ai peut-être pas leur code aux Marocains parce que je vis pas avec eux, mais j'ai cette compréhension des valeurs et de la culture marocaine. Que mes parents m'ont appris, que mes grands-parents m'ont appris aussi, et que ma famille m'apprend aussi au quotidien, c'est qu'il ne faut pas oublier d'où l'on vient. Donc, moi, je serais fier de porter les deux drapeaux et les deux maillots, et voilà. Donc, ça fait partie de moi et ça fera toujours partie de moi.
Ok. Et est-ce que, bon, après, je n'ai pas te demandé de choisir, comme tu as dit, entre le Maroc et la France, mais est-ce qu'il y aurait un petit détail qui ferait que l'une ou l'autre équipe gagnerait ce match?
Un petit détail, bah, déjà sportivement, c'est quand même les champions du monde en titre contre une équipe qui crée la surprise dans cette Coupe du Monde et qui crée merveilleusement bien la surprise parce que personne ne les attendait à ce niveau-là. Tout le monde disait que dans leur poule, le Maroc allait finir troisième ou quatrième derrière la Belgique et la Croatie ou autre. Donc ce que fait le Maroc, c'est exceptionnel, il faut le saluer et ça va être un beau match. En face, on a quand même l'équipe de France, Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Dembélé. Je veux dire, c'est des superstars qui jouent dans des très grands clubs et qui ont été champions du monde. La différence, elle se fera aussi sur l'état des joueurs, l'état physique, parce que il y a beaucoup de joueurs marocains qui sont beaucoup de joueurs marocains blessés ou fatigués aussi par l'enchaînement des matchs. Il y a eu beaucoup de casse. Côté français, il y a aussi quelques incertitudes, mais ça reste très solide. Donc, ce match-là, ça va jouer sur des détails, sur l'envie, sur la fin de gagner ce match. Et croyez-moi qu'il y en aura de la fin parce que ces deux équipes, elles ont envie de se jauger et ça va être un très, très, très beau match.
Ouais, c'est ce que je me dis. Franchement, les deux, ils ont envie de gagner, d'aller en finale. Et c'est vrai que moi, cette équipe du Maroc, bon, même si j'aime beaucoup l'équipe de France, cette équipe du Maroc, elle me fascine. Franchement, je la trouve juste extraordinaire. Et ils ont l'envie, comme on en parlait, ils ont vraiment l'envie. Et c'est vrai que ces deux équipes qui ont l'envie, donc ça va être un match très combatif, en fait.
C'est
Enfin,
ça.
moi, je
J'ai
vois.
remarqué quelque chose comment dire, en étant ici à Doha, c'est que et on pensait pas en plus les jours s'enchaîner que cette équipe marocaine représenterait finalement merveilleusement bien les pays arabes, les pays africains, les riches, les pauvres, les vraiment toutes les nationalités. Et il y a quelque chose de particulier parce que les Qataris ici s'identifient vraiment aux Marocains. Voilà, quand le Maroc gagne à Doha, c'est tous les bâtiments sont illuminés aux couleurs du Maroc, sont rouges. Il y a des messages de félicitations des drapeaux du Maroc dans les rues. Il y a vraiment une identité. Les Libanais, pareil, s'identifient au Maroc. Les Syriens, les Égyptiens, les Tunisiens, les Algériens. Il y a vraiment il y a un engouement autour de cette équipe parce que voilà, c'est la représentation aussi du peuple. Donc, c'est beau à voir. C'est beau à voir que cette équipe puisse dépasser ses frontières.
En tout cas, on espère de toute façon, on va avoir un très très beau, une très très belle demi-finale, pardon, mercredi. On se réjouit déjà d'avance. Et du coup,
C'est
après,
ça.
pour l'autre demi-finale, est-ce que tu as ton pronostic?
L'autre demi-finale, on a trop vite enterré la Croatie dans cette Coupe du Monde. Trop, trop vite d'ailleurs, parce que on les disait vieillissants. C'est plus la c'est vrai, c'est plus la Croatie 2018, mais ça reste une équipe très, très solide. Donc, j'ai vu les lacunes de l'Argentine face aux Pays-Bas. J'étais au match et une équipe qui mène et qui se fait rattraper comme ça, ça en dit long sur l'état aussi psychologique des joueurs, parce que les Argentins ont une mission, c'est faire remporter la Coupe du Monde à Lionel Messi. Et on le voit, il est en transe sur le terrain. On l'a jamais vu comme ça, même à Barcelone, au Paris Saint-Germain, aussi investi, quitte à aller chambrer l'adversaire, quitte à provoquer l'autre. Donc il est vraiment en mission et ça peut se retourner contre lui d'être aussi en transe. Donc j'aimerais pas pour la beauté de l'affiche de la finale retrouver les Croates, mais je ferai attention à la Croatie.
D'accord, ok. Bah, déjà que c'est vrai que c'était un choc pour beaucoup de personnes parce que tout le monde voyait le Brésil en finale. Tout le monde aurait voulu une finale Brésil-France, bien évidemment. Beaucoup en ont parlé. Et c'est vrai que de voir le Brésil se faire éliminer au tir au pénalty, c'est vrai que beaucoup de monde ont été surpris et choqués en fait. Mais après. Moi, je me dis, bon, après, de l'extérieur, je me dis, est-ce que c'est de la façon qu'ils ont été égalisés avant les prolongations? Enfin, voilà, pour les tirs au pénalty, c'est vrai que les tirs au pénalty, ça peut mettre aussi un peu un coup sur le moral de se faire égaliser comme ça 3 minutes avant la fin du match. C'est énormissime, quoi. Moi, je pense qu'ils ont eu un coup dans le mental et que ça a beaucoup joué au niveau des tirs au pénalty.
Ouais, surtout, faut pas oublier que les joueurs entendent ce qui se dit autour. Donc, quand ils entendent que le Brésil est déjà en finale selon les bookmakers et les fans, les joueurs croates dans le vestiaire, le coach leur rappelle qu'ils sont déjà éliminés et que leurs familles sont venues pour rien au stade parce que c'est déjà le Brésil qui est en finale, que ça sert à rien de jouer parce que c'est déjà le Brésil qui est en finale, qu'ils sont plus bons comme 2018 parce que c'est le Brésil qui est en finale. Je veux dire, tous ces messages-là, ça rentre dans la tête et l'envie, elle est décuplée. Donc, c'est beau sur le papier de dire on aimerait une finale France-Brésil, Argentine-France, mais faut pas oublier que ce sont des hommes, c'est 11 contre 11, et sur le terrain, c'est le plus fort qui gagne. Et voilà.
Exactement. En tout cas, bah, Yacine, je te remercie beaucoup pour cette interview. Et franchement, bah, que le meilleur gagne mercredi. Hein
Ça,
Et
que le
bah,
meilleur gagne, c'est la très bonne réponse.
exactement. Exactement. En tout cas, merci vraiment de nous avoir accordé de ton temps parce que je sais que tu es beaucoup occupé et que c'est la fête là-bas aussi. Donc, je te remercie infiniment. Et du coup, bah, profite bien de la fin de ta Coupe du Monde au Qatar. Et puis, bah,
Merci beaucoup.
écoute, bah, avec plaisir, et puis j'espère à très bientôt.
Merci, c'est gentil à vous. Bah, écoutez, profitez bien aussi de cette fin de Coupe du Monde et à très bientôt en Suisse, à Paris, ou ailleurs,
Quand tu
avec
veux.
grand plaisir.
Quand tu veux, dès que tu viens à Genève, on est là.
Ouais.
Et du coup, on va se
Merci,
quitter en
c'est très gentil.
musique.
Je connais bien Genève en plus.
C'est vrai? Ah.
Ah.
Tu viens quand tu veux, tu
Ouais, j'ai des
es.
amis.
Dis-moi.
J'ai des amis à Genève, j'ai beaucoup d'amis à Genève.
D'accord, bah, Radio Tonique t'ouvre ses portes. Quand tu veux, tu viens. Et d'ailleurs, bah, justement, on va se quitter en musique avec. Moi, je t'ai demandé une chanson que tu aimais bien actuellement. Bah, tu m'as parlé de l'hymne de la Coupe du Monde. Alors, on va se quitter avec cette musique. Et je te souhaite un excellent dimanche et prends bien soin de toi.
Merci, très bon dimanche à vous. Merci beaucoup.
Merci. Bye bye tout le monde.
Bye bye.
Hasta el final, digan si sienten el amor que quieren dar, como una ola que nadie puede parar.
Tonight, da, da, di, da, da, da. East to west, high and low, up and down, I beg you. Tonight, da, da, di, da, da, da. East to west, high and low, it's going down. La people at home.
Les yeux pleins d'étoiles avec la main sur le cœur.
Ah,